BFM Business. Good evening business. La grande interview, Edwige Chevriot.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview ce soir. Je reçois Emmanuel Wargon, ancien ministre, bien sûr, président de la commission de la CRE, la commission de régulation de l'énergie. Emmanuel Wargon, bonsoir.
Bonsoir Edwige Chevriot.
Merci d'être avec nous, surtout ce soir. Parce que c'est encore l'échec à Bruxelles. Encore, la Commission européenne a fait des propositions qui ne vont à personne. On se demande un petit peu qu'est-ce qui se passe. Il y a un tel affrontement entre la France et l'Allemagne. Je sais qu'Elisabeth Borne, première ministre, va demain en Allemagne. Et il y a un tel affrontement. Est-ce que ce soir, vous vous dites on n'y arrivera jamais, Dans quel état d'esprit vous êtes ce soir?
Moi, je suis plutôt dans un tempérament optimiste. Donc, je me dis qu'on finira par y arriver.
Mais arriver à quoi?
En fait, la proposition de la Commission, qui était une proposition pour plafonner le prix du gaz à l'échelle européenne pour limiter l'impact de cette crise terrible qui frappe la compétitivité de toutes nos entreprises, elle est tellement élevée que voilà.
Je crois que c'est jamais arrivé parce que c'était un prix plafond. On va expliquer rapidement, c'est un peu technique, 275 kilowattheures, mais tout ça pour il fallait que ça soit au moins pendant 15 jours. Je crois que c'est arrivé. Enfin, ça a tapé si haut une fois pendant 3 jours.
Oui, donc on voit bien que c'est un prix plafond qui est beaucoup trop élevé et qui sera totalement inefficace et inopérant. Donc un certain nombre de pays, dont la France, dont l'Espagne, dont la Grèce, mais dont aussi d'autres pays, ont dit ça ou rien, c'est pareil en gros. Du coup, il y a quand même eu quelques avancées, puisqu'il y a des sujets sur lesquels les ministres se sont mis d'accord. Par exemple, le principe d'achat groupé de gaz.
Certains ont dit on le fera, d'autres ont dit que je ne le ferai pas, on ne le fera pas.
Oui, mais en tout cas, ça permet d'avoir un peu plus de masse critique sur les marchés. Après, c'est vrai qu'on a une divergence de vues. D'un côté, l'Allemagne souhaite pouvoir acheter autant de gaz que possible, quel que soit le prix. Et nous considérons qu'on a besoin de maîtriser mieux les prix sur le marché européen passe par une maîtrise du prix du gaz.
Mais ce soir, vous nous dites quoi? Ou à ceux aux entreprises qui vous écoutent, vous leur dites quoi? On va arriver à un accord qui sera autre que celui-là. Vous leur dites, tant pis, on va le faire sans les Allemands. C'est ce que dit. Je recevais Louis Gallois, que vous connaissez, grand industriel, vraiment la figure de l'industrie française, qui dit mais il y a un moment, il faudra faire sans les Allemands. On ne va pas se tuer au nom de l'Europe et des Allemands.
D'une certaine manière, on a déjà commencé avec toutes les mesures nationales. On a maintenant un amortisseur qui est bientôt prêt, qui sera dans le projet de loi de finances, qui va permettre de réduire la facture des entreprises. Parce que, in fine, la question, c'est notre compétitivité. Et après, je pense que la mère de toutes les batailles, c'est ce qu'on appelle le design de marché. Donc, c'est l'organisation générale du marché de l'énergie, de l'électricité et du gaz en Europe, notamment l'électricité. Ouais. Et c'est là qu'il faut mener le combat.
Sauf que ça, c'est un combat qui n'est pas pour demain matin et qui n'est même pas pour 2023.
Oui, mais inversement, le prix du gaz, il a beaucoup baissé de toute façon dans la période. Donc, la question d'avoir un plafonnement là maintenant du prix du gaz, on en a moins besoin. La question du prix du gaz, elle se reposera pour l'hiver prochain, quand on va recommencer à remplir nos stocks et quand on aura des tensions. Par ailleurs, on ne fait pas rien. Typiquement, aujourd'hui, en commission, on a délibéré sur le projet de terminal flottant au Havre, de gaz, justement pour accroître nos capacités d'importation.
C'est à quelle
échéance ? Et là, il arrive mi-2023.
Ouais.
Et en ce moment, on a suffisamment de gaz.
Oui, en ce moment, c'est de la grande chance. C'est que finalement, et en plus, l'hiver est doux pour l'instant.
L'hiver est doux d'un côté, mais les importations fonctionnent bien de l'autre. Ouais. La Chine n'importe pas massivement du gaz en ce moment parce qu'elle est dans sa politique zéro Covid. Donc, les tensions sur le gaz, si on doit en avoir, c'est plutôt pour la deuxième partie 2023.
Est-ce qu'on peut imaginer, après, on va avancer, mais Emmanuel Wargon, est-ce qu'on peut imaginer un scénario où la France décide de faire ce qu'a fait le Portugal et ce qu'a fait l'Espagne?
Nous, depuis quelques mois, la France, que ce soit la CRE, que ce soit le gouvernement, on plaide pour ce mécanisme qui consiste à dire on plafonne le prix du gaz juste pour le prix de l'électricité. Donc pas le prix du gaz sur tout le marché, mais le gaz quand il sert à fabriquer de l'électricité. La Commission a dit oui, puis non, puis peut-être. Et c'est vrai que sur ce sujet, on a un vrai différend franco-allemand. Et ce sera intéressant qu'il y ait une discussion demain au plus haut niveau avec la Première ministre. Parce que ça permettrait de limiter la contagion de l'augmentation du prix du gaz sur le marché de l'électricité. Ouais. Finalement, on fait différemment. On taxe ce qu'on appelle les rentes inframarginales, c'est-à-dire on va chercher le bénéfice exceptionnel chez les producteurs d'électricité et on le redistribue à travers les boucliers et l'amortisseur. Donc on s'en sort autrement. Mais cette question-là, elle mérite d'être posée jusqu'au bout.
Oui, mais donc, je sais bien que c'est compliqué pour vous de répondre, mais vous, il y a un moment où vous vous dites qu'il faudra envisager une solution française.
En tout cas, les solutions françaises que nous avons choisies, c'est des solutions qui ne sont pas dans le marché, puisque pour le marché, on a besoin de tout le monde, mais qui sont des solutions de redistribution. Alors, c'est un peu plus long à mettre en place, mais là, les aides sont en place, entre l'amortisseur et le guichet Bercy pour les entreprises, qui étaient beaucoup simplifiées.
Pas complètement dans la même épure qu'en Allemagne.
Et là, c'est probablement là qu'il faut accepter de faire l'effort nécessaire pour garder notre compétitivité par rapport au marché allemand. En attendant qu'on arrive à se mettre d'accord sur le marché, on ne peut pas appliquer la mesure espagnole et portugaise tout seul, en fait, parce qu'on est trop interconnecté. C'est une bonne nouvelle d'être interconnecté, parce que ça nous permet d'importer quand on en a besoin. On a d'ailleurs besoin d'importer d'Allemagne, et les Allemands, sur ce sujet-là, en électricité, sont maintenant plus ouverts qu'il y a quelques semaines. Mais du coup, on ne pourrait pas appliquer cette mesure tout seul. Oui. C'est pas qu'en opportunité, c'est que juste on aurait des fuites trop importantes. En fait, on subventionnerait l'électricité toute l'Europe.
Oui, parce que les Espagnols, ils sont en bout de course. Donc
Ils sont beaucoup plus isolés énergétiquement que nous. Ouais. Donc on a besoin de le faire à l'échelle européenne, ça. Et sinon, il faut faire autre chose.
Est-ce que vous voyez un dérapage énorme du bouclier tarifaire?
En fait, les chiffres du bouclier, ils changent quasiment tous les jours parce qu'on aura les chiffres définitifs quand on aura le prix de marché sur toute l'année 2022. En gaz, il est très fluctuant le bouclier. On publie les chiffres tous les mois. C'était plus élevé le mois dernier. Ça a un peu baissé ce mois-ci. Ça remontera peut-être le mois suivant. En ordre de grandeur, on sera autour de 25 milliards pour le bouclier gaz et électricité des particuliers.
Et pour les entreprises ?
Pour les entreprises, on sera autour de 10 à 12 milliards. En face, on a aussi des recettes qui sont les recettes exceptionnelles sur les énergies renouvelables.
Et inattendues. On est à combien, les derniers chiffres pour vous?
Ah non, sur les énergies renouvelables, on est à plus, on est à une trentaine de milliards sur 2023. Donc, in fine, le coût net pour le budget de l'État, ça devrait être de l'ordre de 10 milliards. C'est un ordre de grandeur. Et malheureusement, les sommes sont tellement importantes que la marge est également importante, puisque c'est peut-être à 2 ou 3 milliards près, ce qui, évidemment, sont des sommes très élevées.
D'accord. Donc, vous dites, vous ne voyez pas de dérapage, de grand dérapage quand même?
En fait, les prix ont culminé en août, en septembre. Et en gaz comme en électricité, ils ont un peu baissé. Alors, tout est relatif, c'est-à-dire on est toujours beaucoup plus haut qu'avant crise. En électricité, on est autour de 400 euros du mégawattheure qu'on était avant, entre 60, 70, dans ces eaux-là. Mais les prix étaient à 600, 650, 700, donc ils ont quand même plutôt baissé. Après, tant que l'année n'est pas terminée, c'est difficile de dire comment tout ça va se stabiliser. On le saura en janvier.
En janvier, on le saura de facto. Non, parce que j'étais déjà.
Le coût du bouclier, en fait, il est lié au prix de marché en 2022. Donc, on le saura en janvier quand on aura toute l'année 2022.
Absolument. J'étais déjà en train de penser à la question d'après. C'est effectivement comment vous voyez l'année 2023, enfin, l'hiver. Est-ce que vous voyez. Alors, vous avez dit ce matin, vous l'avez déjà dit, je crois, ici, pas de blackout, mais des coupures. Des coupures, des délestages. Ce serait pour le mois de janvier et février? C'est pendant 2 mois que vous redoutez un peu
Si on le dit d'abord positivement, on est plutôt rassuré sur novembre et décembre. Alors novembre, c'est bientôt fini. Décembre et tout le mois de décembre a passé. Et on n'a pas d'inquiétude majeure sur la capacité du système à fournir la quantité d'électricité nécessaire en décembre. Janvier et potentiellement février, moi je parle de vigilance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exclure qu'il y ait des coupures ciblées. C'est pas non plus sûr à 100%. Ça dépendra de notre sobriété ou pas. Ça dépendra de la météo. Ça dépendra de notre capacité de réaction au moment où RTE, le gestionnaire de réseau, annonce que c'est très tendu. Mais on peut pas l'exclure. Et d'ailleurs, du coup, Enedis, le gestionnaire de distribution, s'y prépare avec les préfets au cas où. Mais on est toujours dans du au cas où. C'est pas écrit que ça se produira.
On a quand même des facteurs relativement positifs, puisque vous avez décidé d'être positif, Emmanuel Wargon, et vous avez raison.
Toujours.
En même temps, il faut aussi regarder la réalité.
Mais tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça que je dis qu'on ne peut pas exclure le risque de coupure ciblée. C'est vrai.
L'évolution du prix de l'électricité, évidemment, ça dépend de cette guerre, mais on va parler dans un instant de l'arrivée d'un nouveau président à la tête d'EDF. Peut-être que ça peut changer les choses. On se dit pourquoi? Mais enfin bon, vous nous donnerez votre réponse. Les prix d'électricité vont quand même être un peu plus à tendance à la baisse en 2023?
En fait, on a un moment critique qui est l'arrivée des réacteurs qui sont actuellement en maintenance ou en réparation pour la corrosion sous contrainte sur la grille de production en décembre et en janvier. S'ils arrivent conformément aux prévisions réactualisées d'EDF, ça veut dire qu'on saura faire face en janvier s'il ne fait pas trop froid. Et ça veut dire que les prix du premier et du deuxième trimestre pourraient se stabiliser, voire baisser. Après, il y a de grandes incertitudes sur la deuxième partie 2023, enfin sur l'hiver 2023-2024.
Voilà.
Et donc, on a un hiver délicat là maintenant, et on a probablement aussi un hiver délicat ou difficile en 2023-2024.
Oui.
Et c'est là aussi que ce qu'on fera sur les importations de gaz, sur les importations d'électricité, la suite des mesures d'urgence communautaire, le début de la réflexion sur l'organisation du marché, ça jouera sur l'hiver 2023-2024.
Oui, c'est des grandes incertitudes. À la limite, l'hiver le plus risqué, c'est celui de 2023-2024.
Probablement.
Oui.
On a une probabilité assez, enfin, on a une belle probabilité que ça se passe finalement pas trop mal pour l'hiver 2022-2023. Pour 2023-2024, c'est encore vraiment très incertain.
Ouais. Et c'est là la difficulté, parce que même psychologiquement, les Français, ça va être difficile à tenir s'il y a deux hivers de suite. À mon avis, le soutien à la guerre en Ukraine, il va un petit peu faiblir, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que les conséquences économiques, elles sont quand même très très fortes. Aujourd'hui, c'est la journée de précarité énergétique. Il y a un impact fort pour les Français et pour les entreprises.
Alors, pour les ménages, pour les familles, il y a quand même le bouclier qui est important, avec une augmentation des contrats à plus 15% pour les contrats qui sont indexés sur les tarifs réglementés du gaz et de l'électricité. Oui. Donc ça protège quand même les ménages. Et du coup, 15%, ce n'est pas négligeable. Dans une période d'inflation, 15%, non, c'est un montant significatif. Vous parliez de précarité énergétique. Il y a aussi le chèque énergie qui est distribué de façon exceptionnelle là en novembre à, je crois, 12 millions de ménages, justement pour les aider à faire face à ces augmentations. Pour les entreprises, bien sûr, le choc est plus important. Elles ont eu du mal à signer des contrats. Elles ont signé à des moments où, où les prix étaient plus ou moins élevés.
On en est où, là, justement ?
Alors, on suit ça avec les fournisseurs, nous, de façon rapprochée pour savoir comment est-ce que les fournisseurs resignent ou ne resignent pas. Les derniers messages sont plutôt encourageants, mais il reste des entreprises. Ouais. J'ai pas de chiffres complètement consolidés, c'est pareil, ça change tous les jours. Il y a une semaine, on savait que 50% des entreprises et collectivités avaient resigné et que dans les 50% qui n'avaient pas resigné, une bonne partie était en train d'eux et qu'il en restait quand même quelques pourcents pour lesquels il s'était rien passé. Donc c'est ceux-là qui nous intéressent, pour qu'ils ne se retrouvent pas sans fournisseur début 2023, parce qu'ils ont besoin d'être dans une relation contractuelle. Les collectivités sont parfois en difficulté, surtout qu'elles passent des marchés. Dans certains cas, les marchés sont infructueux, donc il faut utiliser des mesures d'urgence pour elles.
Oui. Est-ce que... Quel recours disposent des entreprises ou même des particuliers, si les renégociations ou un boulanger, si les renégociations sont trop difficiles?
Alors, il y a un médiateur des entreprises et un médiateur spécialisé sur l'énergie à Bercy et une cellule de crise à laquelle on participe.
Mais justement, vous avez combien eu de saisies?
On en a eu beaucoup, enfin plusieurs centaines, je crois, même un peu plus. Et donc, ça se traite au cas par cas. Les fournisseurs se sont tous engagés dans une charte qu'ils ont signée en octobre à honorer leurs propres clients et à traiter les demandes proactives qui arrivent chez eux. Ils font moins de prospection, évidemment, mais quelqu'un qui s'adresse à un fournisseur, les fournisseurs se sont engagés à prendre. Et donc, globalement, ça se règle. Parfois, c'est de l'incompréhension, parfois, c'est de la mauvaise volonté. Et quand il y a une intervention de médiation, ça se règle.
Oui, justement, vous avez dans le collimateur quelques fournisseurs, je m'en souviens. Ici, vous nous avez dit, j'ai ouvert les enquêtes. Bon, il y en a un fournisseur donc on connaît, c'est Homs, mais il y a d'autres... vous pouvez nous dire un peu qui sont dans votre collimateur. Il y a des noms très grand public, genre Leclerc, c'est du scan qu'on cite. Est-ce que c'est exact ou pas?
Alors, on a cité Homme parce qu'en fait, l'information a été rendue publique.
Ouais.
Nous avons ouvert une deuxième enquête depuis et on mène des investigations approfondies sur, en gros, 5 autres.
Ouais.
Et je ne citerai pas les noms parce qu'en fait, c'est vraiment confidentiel. Et du coup, après, ne serait-ce que pour le respect des procédures...
Mais c'est des noms grand public, on est d'accord, un peu comme ceux que je viens de citer ou pas?
Vraiment, je ne vais pas me prononcer sur les noms que vous avez cités. Ce sont des fournisseurs par définition.
C'est intéressant pour les Français, pour les gens qui ont... Non?
Bien sûr que c'est intéressant pour les Français. En fait, ce que nous faisons, c'est quand on a un doute sur le fait qu'un fournisseur ait de mauvaises pratiques, notamment sur son accès à l'électricité nucléaire pas chère, on s'assure qu'il n'a pas fait en gros du trading ou de l'arbitrage ou donc du profit sur le dos de cette électricité. Quand le problème, ce sont des pratiques commerciales déloyales, ça c'est plutôt la DGCCRF qui ouvre des enquêtes, voire l'autorité de la concurrence, et on est bien organisé avec eux pour se transférer les informations. Et après, si un fournisseur est en infraction, on peut suspendre son autorisation de fourniture. Nous avons signalé au ministère un fournisseur dont je vous donnerai pas le nom en disant celui-là il faut suspendre son autorisation de fourniture et la suspension est au stade de la contradiction et si c'est le cas ça sera suspendu et les clients seront réorientés vers un autre fournisseur donc ce sera pas au détriment des clients.
D'accord, un point important. Alors vous le disiez, un scénario quand même plus difficile pour l'hiver 2023-2024. Nouveau PDG Luc Rémont, ça y est, il a été nommé officiellement hier. Qu'est-ce qu'il peut faire? Certes, il est allé à Flamanville, dont on avait un tout petit peu perdu la trace hein, dans tous ces méandres de réacteurs fermés. Est-ce que vous pensez que Flamanville pourra fournir de l'électricité en 2023?
Alors, c'est vrai que pendant très longtemps, Flamanville a été un marqueur. On fera des choses quand Flamanville sera ouvert. Et puis après, on a tous un peu mis Flamanville en deuxième ligne. EDF a un calendrier avec un chargement de combustible, je crois, en 2023. Et après, il faut le temps, une fois que le combustible est chargé, de faire les tests, etc. Donc, la production sera forcément progressive. Quand vous démarrez un nouveau réacteur, il ne démarre pas tout de suite à pleine puissance. Donc, il y aura probablement un peu de production en 2023 et pas à plein régime.
Voilà, mais quand même peu de production de Flamanville.
De toute façon, c'est vraiment la responsabilité d'EDF, pour le coup, de produire ces calendriers. Mais pour répondre à votre question de fond, Edwige Chevrillon, sur le rôle d'un PDG. Moi, je pense que le rôle d'un PDG, c'est un rôle important dans sa capacité à entraîner une entreprise, un corps social, à fixer des grandes priorités et à les tenir. Il y a un sujet d'excellence industrielle chez EDF pour tenir ses calendriers de redémarrage, de maintenance et de réparation de la corrosion sous contrainte, avec probablement des process industriels à simplifier, à améliorer, peut-être dans lesquels investir encore plus, notamment sur les sous-traitants, sur la formation. Et ça va faire partie de ses grandes missions et de sa responsabilité que de piloter ces process industriels. Alors, bien évidemment, un PDG qui arrive, le lendemain, il rallume pas 25 réacteurs nucléaires.
Parce que, Bruno Le Maire,
il va pas faire les sous sur lui-même.
Il a très enthousiasme, évidemment, sur ce choix de Luc Rémont. C'était aussi son choix. Hein. Mais de dire, tout va changer. Non, parce que j'imagine que Jean-Bernard Lévy a quand même fait des choses et que du jour au lendemain, on peut pas rouvrir les réacteurs.
Bien sûr.
Est-ce qu'on peut aller plus vite? Vous allez dire non.
À très court terme, il y a un calendrier de remise en fonction des réacteurs qui a été publié par EDF et que EDF réactualise régulièrement.
Oui, avec toujours
quand
un peu
EDF
de retard,
réactualise,
mais on réactualise. Oui.
En général, il réactualise avec du décalage, en disant finalement, il y a une semaine de retard, deux semaines, trois semaines. Ce qu'on peut tous espérer, et ce qui dépend, je pense, de cette capacité à soutenir de l'excellence industrielle, c'est que les prochains calendriers soient tenus et qu'on ait moins d'actualisation des calendriers. Donc, pour l'instant, ils sont publiés, ces calendriers. Certains vont forcément se décaler parce que c'est l'aléa normal. Dans la vie, il se passe des choses pas prévues. Mais si EDF tient ses calendriers, ce sera vraiment très important pour le système énergétique français.
Est-ce que vous pensez que...
Donc moi, je souhaite pleine réussite à Luc Rémont, bien sûr.
Il y a un assouplissement, notamment sur l'installation d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques sur les énergies renouvelables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'où peut-on aller? Parce qu'on voit bien la réticence, là. Encore une fois, on a vu les maires qui ont obtenu, je ne sais pas si c'est définitif, mais le fait d'avoir un pouvoir de veto. Quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce qu'il faut aller encore plus loin? Comment vous voyez les choses?
On manque vraiment d'installations renouvelables en France. On est en retard par rapport à notre trajectoire théorique. Et quand le nucléaire est en difficulté, même passagère, ce sont aussi les renouvelables qui nous permettent de faire la jonction. Donc, plus
on
peut en faire...
Une fois qu'elles sont installées, c'est difficile de les enlever.
Oui, mais enfin, notre besoin de système électrique, notre besoin d'électricité d'ici à 2050, il ne va faire qu'augmenter. On est autour de 500 TWh de consommation annuelle aujourd'hui. Et dans les hypothèses dans lesquelles on réindustrialise le pays, et je crois que c'est très important, on serait autour de 800 TWh en 2050. Donc vous voyez, il y a de la marge pour les éoliennes, les panneaux solaires et les nouveaux réacteurs nucléaires.
Oui, donc, pour moi, il faut quand même que ce soit un pays qui soit encore habitable.
Bien sûr.
Oui.
Donc, Il y a des endroits dans lesquels la concertation se fait et dans lesquels, finalement, les projets sont acceptés. Parfois même, ce sont des projets participatifs et où, finalement, les choses se passent bien.
Donc, mais parce que ça peut se passer bien. C'est juste la manière dont c'est fait d'une manière totalement désordonnée.
Mettre un droit de veto au maire, c'est probablement un peu brutal. Et ça veut dire que ça donne à une personne la possibilité de stopper un projet. Dire que c'est discuté avant dans les schémas d'urbanisme qui sont adoptés collectivement, c'est déjà plus facile. Et après, il faut aussi regarder où on fait ça. Il y a des endroits dans lesquels il y en a déjà beaucoup. Et donc, ça n'a pas de sens de continuer. Il y a des endroits dans lesquels il y a plus de marge. Ouais. Et il faut panacher de l'éolien terrestre, du solaire, d'ailleurs de la géothermie aussi. Et puis après, de l'éolien offshore, dont on a également besoin, l'éolien en mer.
Juste un instant, je reviens sur deux questions. Vous dites, si on arrive à réindustrialiser la France, là, on voit bien que ce choc énergétique, y a des décisions comme celle de Safran qui devait investir une usine près de Lyon, il est remis en cause. Et puis, on le sent bien, des choix quand même de plus en plus forts, des choix d'investissement aux États-Unis.
Oui, c'est pour ça qu'en fait, notre combat, il n'est pas tellement entre la France et l'Allemagne. Notre combat, c'est aussi la zone Europe
c'est qu'on arrive
versus
pas à trouver
les États-Unis. Mais on a besoin d'un accord avec l'Allemagne, parce que pendant ce temps-là, les Américains ont ce grand plan de relance, dans lequel il y a des investissements massifs, avec des aides très fortes à ce qui est produit sur le sol américain.
Gigantesque.
Et du coup, on va se retrouver dans une situation de concurrence qui n'est pas supportable pour l'Europe. Donc c'est aussi ce combat-là qu'il faut qu'on mène.
Oui, mais c'est est-ce que ça arrive pas trop tard?
Faut pas. Enfin, les batailles, il faut les mener jusqu'au bout, il faut les mener jusqu'à la dernière minute. Donc c'est une bataille à mener maintenant.
Sur le toute dernière question, parce qu'on a un peu évincé tout à l'heure, la réorganisation du marché de l'électricité. Je vous ai dit, j'ai un peu balayé en disant oui, mais c'est pas pour tout de suite. C'est vrai que c'est pas une solution pour tout de suite. Il faudrait que cette réorganisation, ça se fasse comment? Sur le prix de l'électricité, sur le court terme, sur le long terme, sur des prix fixés en fonction de quelle électricité produite par du gaz, des énergies renouvelables. Comment? Il y a un peu deux schémas possibles.
Alors, il y a plein de schémas possibles. Et d'ailleurs, nous, on fait appel à une dizaine d'économistes internationaux mi-décembre pour venir débattre avec nous de ce sujet qui est effectivement un sujet compliqué. Oui. Mais en gros, l'idée générale, c'est d'avoir plus de segments long terme sur le marché. Donc de permettre d'acheter de l'électricité à 5 ans, 10 ans ou 15 ans, auquel cas vous achetez à un prix que vous maîtrisez et vous êtes moins soumis aux variations de marché.
Oui. Et vous avez une préférence pour lequel?
Moi, je pense que ce schéma de long terme, il peut fonctionner, surtout d'accord, s'il est couplé avec un intérêt particulier pour l'énergie décarbonée, nucléaire ou renouvelable.
Merci beaucoup, Emmanuel Vargon, d'avoir été avec nous, présidente de la Commission de régulation de l'énergie. Donc, vous l'avez compris, le gros problème, en fait, ça sera plus 2023-2024 que cet hiver. Merci d'avoir été ici. Évidemment, vous pouvez réécouter sur le replay de BFM Business et puis le podcast de BFM Business pour cette grande interview.